Le journal Loïc Barrière. Un dîner à l'Élysée entre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron. À l'ordre du jour, la crise de l'énergie et la coopération entre Paris et Riyad. Au Maroc, les efforts s'intensifient pour lutter contre les feux de forêt, notamment dans la province de Larache. Gérald Darmanin annonce l'expulsion prochaine de l'imam marocain Hassan Iki Houssen, célèbre pour ses prêches sur YouTube. Le ministre lui reproche un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France. Partir en vacances est un droit, affirme le député écologiste Benjamin Lucas, qui mène des auditions sur ce thème. Il déposera une proposition de loi pour lutter contre les inégalités sur l'accès aux vacances. Enfin, après les députés, les sénateurs examinent à leur tour la loi sur le pouvoir d'achat. Le texte dissocie l'allocation adulte handicapé des revenus du conjoint, ce dont se réjouit Stéphane Lenoir, coordinateur national du collectif Handicap. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman invité à un dîner à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Après la Grèce, la France est la deuxième étape de son déplacement dans l'Union européenne. Au programme de cette rencontre, la crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine. Les pays occidentaux espèrent que l'Arabie saoudite augmentera sa production de pétrole. Le sujet avait été abordé il y a 2 semaines lors de la visite de Joe Biden dans le royaume. Également à l'ordre du jour, le partenariat franco-saoudien, notamment sur le plan culturel. Avec le développement de la région d'El Oula, les deux dirigeants souhaitent aussi relancer la coopération sur la question des musées, de la sauvegarde du patrimoine et du cinéma. Il sera question aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Au Mali, 3 attaques coordonnées attribuées à des terroristes dans le centre et l'ouest du pays. Bilan au moins 15 soldats maliens et 3 civils tués. C'est dans la ville de Kalumba, près de la frontière mauritanienne, que le bilan est le plus lourd. 12 morts dont 3 civils appartenant à une entreprise de construction de routes. Dans le nord de la Syrie, les forces kurdes ont découvert une fosse commune comprenant au moins 29 corps. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il s'agirait de personnes exécutées par le groupe État islamique. L'Iran annonce l'arrestation de 5 personnes, membres d'un réseau affilié au service des renseignements israéliens. Une autre cellule, accusée de travailler elle aussi pour le Mossad, avait été démantelée la semaine dernière. Au Liban, le gouvernement a décrété la journée du 4 août, journée de deuil national, décision prise à l'occasion du 2e anniversaire de la double explosion meurtrière de 2020 au port de Beyrouth, un drame qui a fait plus de 220 morts et 6500 blessés. Dans le nord du Maroc, les pompiers et l'armée luttent toujours contre les feux de forêt attisés par les vents violents, des feux encore actifs dans la province de Larache, où 3 canadairs ont effectué 25 rotations mercredi pour protéger les villages menacés par le feu. En France, le député écologiste de la NUPES, Benjamin Lucas, prépare une proposition de loi sur le droit aux vacances. Objectif, permettre à tous de pouvoir partir en vacances. On écoute Benjamin Lucas.
C'est une inégalité terrible aujourd'hui qui frappe des millions de familles à travers le pays. Ce fait de ne pas pouvoir partir en vacances, découvrir la mer, la montagne, s'émerveiller dans la nature, bref, souffler, se reposer, et c'est normalement un droit qui est consacré par la loi de 1998.
Pourquoi, selon vous, c'est au législateur et donc à l'État de lutter contre cette inégalité d'accès aux vacances ?
D'abord parce que c'est ce que dit la loi. La loi dit que le droit au loisir, à la culture et aux vacances, elle spécifie les vacances, est un objectif national qui concourt à la citoyenneté. Donc c'est la responsabilité collective. Ensuite, je crois que c'est une question d'intérêt général parce que ne pas partir en vacances, ne pas accéder aux loisirs, ne pas avoir du temps de repos et de liberté, eh bien ça accentue des phénomènes d'inégalité, d'inégalité sociale, d'inégalité culturelle. Ça accentue la sédentarité, le mal-être psychologique, les dépressions. Voilà, je crois que c'est une question d'intérêt général.
Dans votre travail, en vue d'une proposition de loi, vous pensez d'abord aux enfants ou bien aux familles?
À tout le monde, parce que vous avez aussi, et j'ai mené des dizaines, je dois être à 25 aujourd'hui, auditions qui ont été réalisées avec des associations, avec des experts. Il y a aussi la question des personnes âgées, par exemple, qui ne sont jamais parties en vacances et que des associations comme les Petits Frères des Pauvres aident à voyager et à s'émerveiller également. Donc ça concerne tout le monde, tous les âges de la vie. Je crois que c'est une question qui traverse les générations. Il y a évidemment la question des enfants et des jeunes, parce qu'en plus, partir en vacances, là, ça prend. Et souvent, parce qu'on est parti une première fois, on peut partir une deuxième, une troisième. Mais c'est vraiment pour tous les âges de la vie.
Est-ce qu'il faut, par exemple, relancer les colonies de vacances, une activité qui est passée du public au privé en quelques années? Plusieurs mairies ont par exemple vendu les centres de vacances qu'elles possédaient.
Oui, on voit que affaiblir nos collectivités locales, c'est pas juste régler des questions budgétaires pour l'État, c'est priver des habitants de territoires entiers, de politiques sociales qui fonctionnaient très bien et qui étaient très justes. Donc il y a effectivement un sujet d'accès au patrimoine. Là aussi, l'État pourrait aider via un fonds de péréquation. L'État pourrait aider, accompagner les collectivités pour acheter du patrimoine, pour permettre d'avoir des colonies de vacances, des centres de vacances. Il y a des pistes à explorer de ce point de vue-là.
Vous vous êtes rendu notamment à Poitiers pour discuter de l'accès aux vacances. Cette ville peut-elle inspirer votre future proposition de loi ?
Oui, Poitiers est un modèle parce que la maire écologiste de Poitiers, Eleonore Monconduit, a mis en place des dispositifs très complets qui touchent à différents champs d'intervention sur différents types de départs en vacances. Donc je crois qu'on gagnerait à s'inspirer de ce qui se passe. Et moi, je crois que le travail du législateur, le travail de l'État, des pouvoirs publics, mais bref, des responsables politiques, c'est pas toujours d'inventer des choses nouvelles, c'est aussi de voir ce qui se passe, de voir ce qui se fait de bien et de s'en inspirer pour le faire partout et pour le généraliser.
En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour permettre de lutter contre ces inégalités ?
Oh, beaucoup de choses. Les vacances, c'est les moyens, donc il faut aussi remettre de l'argent en fait dans les politiques sociales, parce que le premier frein de départ en vacances, c'est la question des moyens. Et cette année, particulièrement du fait de la vie chère, de l'inflation, du prix des carburants, vous avez des milliers de familles qui ne pouvaient déjà pas partir, mais qui le pourront encore moins, ou des familles qui pouvaient partir jusque-là et qui ne pourront plus partir. Donc la question sociale est déterminante, mais il y a aussi un accompagnement culturel, pédagogique, évidemment, et puis il y a aussi l'offre de tourisme, hein, une offre de tourisme social et écologique. On est en pleine crise climatique, donc la question du modèle aussi de tourisme que l'on défend est centrale.
Benjamin Lucas, député écologiste de la NUPES. C'est le 19 août qu'aura lieu le procès d'un homme de 23 ans jugé pour des menaces contre les fidèles d'une mosquée de Lille. Le procès a été renvoyé en attendant un rapport d'expertise psychologique. L'homme est poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme et menace de mort commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Gérald Darmanin annonce l'expulsion prochaine de l'imam Hassan Iki Houssen pour des appels à la haine et à la violence, notamment contre la communauté juive. Le ministre affirme sur Twitter que ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. De nationalité marocaine, Hassan Iki Houssen réside à Lourches, dans la région de Valenciennes. Il s'est fait connaître notamment par des vidéos sur YouTube. EDF a subi une des plus lourdes pertes de son histoire au premier semestre, 5,3 milliards d'euros, une perte qui s'explique par la baisse de production d'énergie nucléaire et liée au problème de corrosion d'une partie de ses réacteurs. Pour sa part, le groupe Total Energy a réalisé des bénéfices colossaux, 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Le groupe a profité de la hausse des cours du pétrole et du gaz. Le Sénat examine à son tour la loi sur le pouvoir d'achat. En première lecture, les députés ont notamment accepté de dissocier l'allocation adulte handicapé des revenus du conjoint, une mesure que l'opposition réclamait lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais cette mesure entrera en vigueur seulement dans un peu plus d'un an. On écoute la réaction de Stéphane Lenoir, coordinateur national du collectif Handicap.
Pour notre part, on a accueilli l'adoption des dispositions concernant la déconjugalisation de l'AAH avec une grande satisfaction. C'est une attente forte des associations et des personnes concernées depuis des années. On a tous suivi un petit peu le tumulte qui a engendré les débats à l'Assemblée nationale concernant ce sujet. Donc là, vraiment, l'accueil est extrêmement favorable. Même si on a encore deux points pour nous d'alerte à améliorer, et on espère qu'ils seront améliorés lors du passage au Sénat. Mais globalement, non, on a vraiment une très grande satisfaction à la suite de ce vote à l'Assemblée nationale.
Déplorez-vous des délais trop éloignés avec une mise en vigueur d'ici à octobre 2023?
Oui, tout à fait. C'est à mon avis un point à améliorer hein, lors du passage au Sénat, c'est effectivement cette entrée en vigueur qui est pour nous beaucoup trop éloignée au regard des attentes des personnes qui attendent depuis des années. Donc le collectif Handicap lui demande une entrée, une mise en application dès le 1er janvier 2023.
Vous dites que cette mesure, cette déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé ne suffit pas à répondre à l'ensemble de vos attentes concernant l'évolution des ressources des personnes handicapées. Alors justement, que demandez-vous sur ce sujet?
Alors effectivement, la déconjugalisation de l'AAH répond à la problématique de l'indépendance financière, mais néanmoins, elle ne répond pas à la question des ressources. Puisque aujourd'hui la AAH qui est aux alentours de 919 euros reste en dessous du seuil de pauvreté. Et donc le collectif Handicap demande à ce que la AAH soit au minimum au niveau du seuil de pauvreté. Et de manière plus globale, effectivement, il y a une question des ressources des personnes en situation de handicap qui se posent, puisque elles ont régulièrement dans la vie quotidienne des restes à charge et donc qui pèsent sur leur pouvoir d'achat. Donc ça, ce sont des sujets qu'il faudra qu'on continue à travailler avec le gouvernement.
Avez-vous été soulagé de voir la majorité des députés voter pour cette déconjugalisation, cela donc malgré une absence de majorité relative pour l'exécutif? Est-ce bon signe pour vous pour la suite?
Alors effectivement, peut-être que la composition aujourd'hui de l'Assemblée nationale nous aidera à faire avancer un certain nombre de sujets, puisque voilà, sa composition fait que même si les députés proches du gouvernement ne sont pas favorables à une mesure, on sait pertinemment que les groupes d'opposition, eux, peuvent remporter la mise en quelque sorte. Et donc effectivement, ça nous permet d'avoir un rapport de force qui pourrait nous être favorable.
Aujourd'hui, quelles sont vos principales revendications? Je rappelle que le collectif Handicap regroupe une cinquantaine d'associations.
Oui, tout à fait. On regroupe aujourd'hui 52 associations nationales. Bah, les principales revendications, elles portent, bah, on vient d'en discuter, notamment sur les ressources, mais elles portent aussi sur l'accessibilité. Ça, c'est un vaste sujet qui traîne, entre guillemets, depuis plus de 40 ans, hein, la France aujourd'hui n'est toujours pas accessible à l'ensemble des citoyens en situation de handicap, mais on porte aussi des revendications concernant la cinquième branche autonomie, et on souhaite notamment la suppression de la barrière d'âge des 60 ans, qui crée encore des disparités et des discriminations en fonction de l'âge et au niveau des droits pour les personnes en situation de handicap. Donc ça, ce sont vraiment des sujets que l'on portera tout au long du quinquennat.
Vous évoquez la question de l'accessibilité qui est une question fondamentale. Est-ce que les Jeux Olympiques 2024 peuvent être un élément qui peut favoriser la mise en place de mesures liées à cette accessibilité?
En tout cas, on l'espère. Il est vrai que les Jeux paralympiques 2024, il faut absolument qu'ils soient évidemment accessibles et que l'héritage qui en résultera permette une meilleure accessibilité, en tout cas là où auront lieu les Jeux paralympiques. Néanmoins, les Jeux paralympiques ne se déroulent pas partout en France, donc ça reste dans certains lieux en France et reste de toute façon la question de l'accessibilité dans toute la France. et pas que dans les établissements ou dans les structures sportives. La question de l'accessibilité, ça concerne à la fois les lieux publics, les petits commerces, mais aussi, il ne faut absolument pas oublier, tout l'espace numérique, les sites internet, les logiciels métiers, etc. Donc la question de l'accessibilité est vraiment large, et on prône effectivement une accessibilité universelle.
Et sur cette question de l'accessibilité, comment se situe la France par rapport à ses voisins européens ?
Bon, bah, globalement, la France, traditionnellement, on sait qu'elle est en retard, hein, par rapport notamment aux pays anglo-saxons ou aux pays du nord de l'Europe, peut-être aussi lié à son histoire ou à son patrimoine, mais néanmoins, aujourd'hui, il est avéré que nos citoyens en situation de handicap n'ont pas accès à tous les lieux publics, et ce qui reste aujourd'hui un véritable scandale.
Stéphane Lenoir, coordinateur national du collectif Handicap, au micro de François-Xavier de Calonne. Cette édition est terminée. Merci d'être fidèle à Radio Orient.